Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
C'est le moment où on s'est le plus embrouillé de toute notre relation sur cette histoire de demande de prêt bancaire. J'en arrive à un point, je me rappelle, où je dis à Jérémy, en fait, j'ai même plus envie de faire ce prêt avec toi, quoi. Genre, j'ai pas envie d'être engagée à emprunter avec toi quand je vois, genre, tous les trucs bordéliques qu'il y a, genre, dans quoi je me mets à avoir un prêt sur le dos que je vais partager pendant 25 ans. Genre, j'ai même plus envie de le faire.
Avec Jérémy et Lola, on aura mis du temps à enregistrer cet épisode. À vue d'œil, ça fait un an et demi qu'on s'en parle. Avec ma meuf, l'argent, c'est un sujet, m'a confessé Jérémy d'abord en mai 2022, avant de préciser en novembre 2023, quelques temps avant l'entretien, Lola est une fourmi et moi, je suis un bon vivant. Ce qui m'a intéressé dès le début, c'est cette façon de se définir. Le bon vivant, il est sympa, il ne compte pas, il a ce côté généreux, gourmand. La fourmi, bon, ça fait moins rêver. Sauf si on se souvient de la fable de La Fontaine. Dans cet épisode, comme dans les autres, on va parler de famille, s'interroger sur cette fameuse culture de l'argent. Ce que nos familles nous disent, nous transmettent, les valeurs morales et les valeurs comptables. Et puis, puisqu'il n'y a pas que là d'où on vient, on va aborder les ajustements du couple au quotidien. Jérémy vit les montagnes russes de l'entrepreneur, Lola est salariée et aime la stabilité. Et comme ils sont en période de construction, maison, enfant, les ajustements sont nombreux et quelquefois mouvementés. Et avant de finir, je voudrais les remercier. C'est pas évident de se dévoiler dans son intimité. Ils l'ont fait. Et je salue l'exercice et l'intelligence qu'ils ont eu de ne jamais céder à la caricature. Parce que comme le dit très justement Lola, dans un couple, chacun prend son rôle en fonction de l'autre. Bonne écoute. Bonjour Lola, bonjour Jérémy. Merci de participer à cet entretien à trois qui est le premier. Vous êtes en couple.
Exact.
Vous êtes des Parisiens qui avaient déménagé à Marseille il y a peu et vous avez un enfant en bas âge, une petite fille. Et alors vous êtes là aujourd'hui parce que votre rapport à l'argent est super différent. Vous n'avez pas du tout les mêmes zones d'excitation financière, je crois. Pas non plus les mêmes peurs et peut-être pas les mêmes envies. Tout ça est vrai ?
Je sais pas à quel point on n'a pas les mêmes envies, parce qu'on réussit quand même à prendre des décisions ensemble sur des projets, mais on n'a peut-être pas les mêmes envies au même moment.
Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à tour de rôle, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Lola, j'ai 33 ans. Je bosse sur les questions d'impact social et environnemental depuis 5 ans. Et du coup, je bosse dans une grosse asso et en plus, je suis en charge de la recherche de financement. Donc, je suis vraiment sur les questions d'argent toute la journée.
Alors, moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 38 ans. Je suis entrepreneur, j'ai monté plusieurs boîtes depuis toujours, j'ai jamais été salarié. Et moi, je viens d'une famille plutôt aisée de banlieue, des parents qui s'aiment, deux petites sœurs, un cadre safe.
Est-ce que chez vous, à la maison, on parlait d'argent, Lola ?
On va dire qu'on parlait de quel genre de vacances on faisait, quel genre de restaurant on allait. Tout ça était un peu conditionné par le côté argent. Pour le coup, moi, je viens d'une famille avec une mère célibataire. Mon père est décédé quand j'étais petite et j'ai un petit frère. Et du coup, bizarrement, je pense que les premières fois qu'on a parlé d'argent, c'est pour dire que l'assurance vie de mon père avait payé la maison. Moi, j'étais une élève boursière à la fac. Mais sinon, on était toujours vachement accueillis dans la famille, aidés par de la famille, amenés par mon oncle et ma tante qui, eux, n'avaient pas d'enfants. Donc, c'était pas tant des discussions sur combien qui gagne, etc., mais plutôt des réflexions sur ce qu'on pouvait se permettre ou pas se permettre au vu de l'argent qu'on avait à la maison.
Donc, une conscience assez jeune de il faut faire attention.
Ouais. Et en même temps, on était les deux seuls petits-enfants du côté de ma mère. Et du coup, pour mes grands-parents, on était vraiment les trésors de leur vie. Et donc, ils ont ouvert un compte à notre naissance où ils devaient mettre, je sais pas moi, genre 50 balles par mois. Ce qui fait qu'à 18 ans, j'avais un compte courant avec presque, je sais pas, 20 000 euros. Pour moi, pour le coup, je me suis jamais posé de question d'argent à partir du moment où j'ai eu 18 ans. Parce qu'en fait, c'est énorme par rapport à plein d'autres étudiants d'avoir un compte en banque avec 20 000 euros, d'être logé dans sa famille pendant que tu fais tes études. Du coup, même si j'ai toujours la conscience de faire gaffe à l'argent, je regardais jamais ce que j'avais sur mon compte, quoi. Vraiment, ça m'est jamais arrivé à partir de mes 18 ans.
Et toi, Jérémy ?
Moi, la relation à l'argent dans ma famille, elle est assez spéciale puisque mon père gagne bien sa vie et s'est dit un jour, on ne parle pas d'argent. L'argent, c'est tabou. Je suis là pour faire en sorte que toute la famille aille bien. Pour le coup, nous, nos vacances, c'était le cliché du cadre sup. Donc, la Floride, Cuba et Bali, quoi. Mais en revanche, dépensier. Et donc, c'est-à-dire qu'il a acheté sa maison principale et il n'a qu'un bien qui est la maison principale. Il préfère mettre son argent dans, pour le coup, le Cuba ou le Bali. Donc c'est vraiment un peu cet esprit profiter de l'argent tout de suite, profiter du bon moment que de comme une fourmi mettre un petit peu de côté comme les grands-parents de Lola. Pour moi c'est lunaire.
Ah ouais.
Ah ouais, pour moi ça n'existe pas cette histoire.
Mais ça c'est un privilège de riche de penser comme ça.
C'est pas tant un privilège de riche, c'est que tu choisis le plan A ou le plan B, qui est le plan fourmi ou le plan cigale, quoi. Moi, mon père est né à Oran, il a grandi à Casa, il a aujourd'hui 80 ans. C'était, il faut travailler pour à l'école, puis après travailler CSP+. Et donc, quand on a de l'argent, on achète une belle maison et ensuite, on fait kiffer sa famille.
Et ensuite, on fait kiffer. D'ailleurs, c'est comme ça que tu te définis, toi, comme un kiffeur.
Moi, j'avoue que je suis un peu un panier percé, très clairement. Je n'ai jamais mis un euro de côté.
Et, dit-il en regardant Lola.
Ouais, c'est ça.
Si je suis avec toi, c'est quand même qu'il y a un parti qui me fait rêver.
Oui, oui. Et si je suis avec toi, c'est que t'es mon matelas.
C'est mignon.
C'est pas ouf de dire ça. Et donc voilà. Et donc moi, en fait, pendant mes études, j'ai monté ma première boîte. Et après, ça s'est jamais arrêté.
T'es ce qu'on appelle un serial entrepreneur sur LinkedIn.
Exactement. C'est vraiment le pire mot ever. T'as l'impression d'avoir arnaqué des gens pendant 15 ans, quoi. Je déteste ces mots. Et puis, en fait, moi, j'ai fait plein de coups sympas, mais très médiatiques et très suffisamment médiatiques pour pouvoir en vivre de mes projets et de ma notoriété et de mon image et tout. Mais j'ai jamais monté la boîte à 10 millions, 100 millions, etc.
Oui, t'as fait des petits coups. T'as fait des petits coups un peu artisanaux.
J'ai appris petit à petit à me planter dans toutes mes boîtes une après l'autre.
T'as fait bosser des grands-mères pour qu'elles fabriquent des écharpes tricotées à la main.
Exact. Pour les plus vieux qui s'en souviennent. Sarko avait sorti un truc qui s'appelait l'auto-entrepreneuriat, qui était vraiment genre les gens qui font de la vente sur le bon coin, de la brocante et la grand-mère qui donne un petit coup de main, qu'elle puisse déclarer son... C'était vraiment ça au début, l'auto-entrepreneuriat. Et donc moi, c'était parfait parce que ça pouvait avoir des grand-mères qui tricotent devant la télé toujours, quoi qu'il arrive, et qui se prennent un petit billet à côté. Bon, c'était un billet, c'était un taux horaire SMIC, hein, c'était pas un petit billet, c'était un billet légal, clean et propre. Alors, on est passé à la télé, ça c'est sûr. Mais en revanche, on a fait 0 euro, quoi. On a fait ça, au max, on a fait 100 000 balles.
Donc après, d'autres boîtes, d'autres plantades, on va passer dessus. Mais voilà, c'est pas des boîtes du CAC 40, quoi.
Non.
Non, voilà. Bon, toi, Lola, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais ?
Je finis mes études, parce que déjà, Jérémy est super vieux.
Oui, c'est vrai, vous avez 7 ans d'écart. Ouais.
J'ai toujours eu un truc un peu pour l'industrie. Et donc, je finis par trouver un taf en sortie d'études dans une boîte de conseil où on accompagne vraiment des boîtes purement industrielles à transformer leur chaîne de production. Et donc, tous les lundis matins, je pars, je vais dans l'usine et je rentre tous les vendredis soirs. Ce qui fait que c'est une période où... Genre, tout mon argent, c'est l'argent de poche. Parce qu'en fait, je suis nourrie logée du lundi au vendredi. J'ai déjà pris un mini appart à Paris. Et je suis logée dans des hôtels de pimp. Je peux manger au resto tous les soirs. Bon, après, je suis pas beaucoup là, mais en tout cas, période hyper intéressante. Et là, en gros, notre boîte avait été rachetée. Ils décident de fermer le bureau France en entier. S'ensuit une grosse lutte juridique où nous, on saisit les prud'hommes. Et s'ensuit une année de négociation pour négocier des avantages de départ. Et donc là, je me fais une année, je suis payée, j'ai plus de boulot, je me barre en tour du monde. Je touche un an de salaire entier pour avoir bossé genre 3 ans. Et donc, je me barre une année vraiment en voyage, sans bosser, à juste profiter.
Oui, donc t'es pas si fourmi que ça.
Non, je pense pas être si fourmi que ça. Je dirais que...
Alors, Jérémy fait une tête. C'est...
Non, mais c'est le fourmi qui a tellement d'argent qu'il peut se permettre de faire un craquage. Il y a vraiment ce truc-là.
J'ai touché d'un coup cash 30 000 de licenciement.
Et donc, ton 2 000 plus 2 000 plus 30 000 cash, ça commence à faire...
Ouais. Et donc, effectivement, tu dépenses pas trop.
Enfin, c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant avec les débats là, d'écologie et de décroissance. Genre, je considère pas que genre, je me fouette pour moins dépenser. Juste moi, depuis que je suis petite, avec ma mère, on kiffe aller chez Emmaüs. Et donc, pour moi, c'est un truc normal. Genre, par exemple, je suis vraiment perplexe dans un magasin de produits neufs, par exemple, en termes de fringues. Je sais jamais quoi choisir. J'arrive vraiment pas à comprendre le délire, quoi. Genre, je n'arrive pas à ressortir avec des habits. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas l'impression de me saigner pour pas dépenser. Genre, juste, genre, mon mode de vie, il est sur un semi-mode de vie sobre, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais pas parce que j'ai l'impression de me forcer à m'enlever des plaisirs, quoi.
Là, aujourd'hui, t'es habillé en seconde main?
Ça, c'est moi qui l'ai offert. Et ça, c'est quoi?
Non, ça, je l'ai acheté quand j'ai fait mon Erasmus en Espagne il y a 12 ans.
Ah ouais, 12 ans. La robe, elle a 12 ans.
J'ai des chaussures, c'est des chaussures qui coûtent très cher. J'ai les chaussures de mon oncle que ma tante a mis 30 ans, des paraboots.
Ah, exact.
La tante les met 30 ans et elle va continuer à les mettre 30 ans.
Et ma voisine m'a donné un pull en cachemire qu'elle a fait rétrécir sans faire exprès.
Effectivement. Jérémy, tu...
Chouchou, c'est chouchou de sa fille, toi. Après, ce qu'elle dit pas, c'est quand même... toute sa famille est corrézienne et il y a quand même un truc chez les corréziens de... comme les Auvergnats, c'est de mettre de l'argent de côté.
Ouais.
Et moi, j'ai plutôt un côté pied noir où genre, on a vécu des moments difficiles, maintenant on s'éclate, quoi.
Vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps ?
5 ans et demi maintenant. Moi, à l'époque, je gagnais ma vie correctement, quoi, normalement, etc.
C'est quoi normalement ?
Je sais pas, 2 500 € par mois net, quoi. Il n'y a pas encore cette montagne russe, tu vois, de l'entrepreneuriat, donc elle le voit pas. Et donc, on voit que je suis un peu plus dépensier et que j'aime bien manger dans des bons restos, du bon vin, etc. Et quand c'est un peu trop long, je rentre en taxi. Quand Lola arrive à rentrer en métro ou en bus en permanence, ce qui est assez impressionnant. Mais bon, 10 taxis... économiser, c'est 200 balles, quoi. Donc, je réapprends avec quelqu'un à faire un peu attention, même si c'est pas facile. C'est une période où, en fait, moi, ma boîte, elle commence à moins marcher. Et entre-temps, je monte un autre projet. Parce que le multi-entrepreneur, il aime bien mettre les doigts un peu partout, tu vois. Et donc, je monte une savonnerie avec une bonne connaissance. Et donc, la savonnerie prend fort. Et donc, en fait, il y a la fameuse montagne russe, boîte d'avant descend, finalement je peux pas la revendre, Covid, tout le monde pense que tout va s'écrouler. Et savon, okay, hasard quand même, mais on monte une savonnerie le jour où le Covid arrive et que les gens découvrent ce que c'est un savon. Et donc savon prend son envol. Donc là ça va à peu près bien. Et après, on embauche trop de gens, on paye trop de pubs, on achète trop de marketing... On dépense plus que ça ne rapporte, même si on est en belle croissance, c'est toujours autant. Et là, on commence un peu moins se payer, puis on commence à avoir donc en couple cette relation de faudrait économiser son argent, faudrait acheter un peu moins de, de trucs, on compte les voyages.
Comment tu vis cette période, toi, Lola ?
En vrai, pour moi, c'est surtout arrivé au moment où on doit acheter une maison.
Attendez, parce qu'on va, voilà, on va dézoomer un peu. Vous êtes parisien et ouais. Il y a 3 ans, vous décidez de vous installer à Marseille.
Ouais.
Pourquoi ? Pour la qualité de vie, le soleil, les loyers plus bas ?
Un enfant, comme tout le monde, voilà. T'as 30 piges.
Bah, je pense qu'on a tous les deux vécu dans des baraques avec des jardins.
En banlieue.
En banlieue. Alors déjà, revenir en banlieue, ça, c'était non, c'était sûr. Et après, élever un gosse dans des apparts minuscules, c'était aussi non. Donc, pour le coup, il y avait un truc de où est-ce qu'on peut aller, où on pourra avoir une maison et élever des enfants aussi un peu dehors. Et après...
Et une grande ville.
Que ce soit quand même une grande ville pour
Lola
le taf, pour
café.
Plein de trucs.
Lola a besoin d'avoir un café
un
à côté,
PMU,
en bas
ouais.
de chez elle.
À moins de, vraiment, de 400 mètres. C'est un critère.
400 mètres, 100 mètres.
J'ai jamais bien vécu Paris pour le coup. Enfin, quand je suis arrivée à la fac, j'étais à Dauphine dans le 16e, en venant de banlieue. Et donc, je suis habillée 100% en seconde main. Et je suis vraiment solo, quoi. Mais c'est vraiment, genre, je sens que ça, rien ne va dans mes codes, quoi. Genre, je suis étudiante boursière habillée en seconde main. Eux, ils sont tous avec des trucs Louis Vuitton. Et donc, moi, j'ai pas non plus, genre, une passion pour Paris.
Ouais, Paris, capitale de la mode, ça te fait pas rêver.
Nord,
moi, c'est l'inverse, tu vois.
Du Nord, entre guillemets. Tu les appelles les gens du Nord,
les
ouais.
Gens du Nord,
non, mais en vrai, quand on se rencontre au tout début, Jérémy vit dans son appart. Et donc moi, finalement, je squatte un peu dans son appart, puis on finit par prendre un truc à deux.
Ah, l'économie encore. Tu sais, squat, t'as payé pas le loyer. Je t'ai pas demandé, moi, ces années de loyer, là, d'ailleurs.
Non, et voilà, il paye des restos, etc. Donc en fait, même quand il y a les galères avec le Covid, il finit par s'en sortir avec son autre boîte. Donc en fait, moi, les 3 premières années, je me dis que tout va bien. Puis là, en fait, on doit faire un prêt. Et donc... On se dit que ça va bien se passer, mais en fait, la banque considère qu'il vaut 0 en termes de salaire. Donc, tout le taux d'endettement va être calculé sur mon salaire.
Pour acheter ?
Pour acheter une maison à Marseille. Bah, je me rends compte aussi qu'il a 0 apport, vu qu'il a déjà genre tout cramé. Alors que moi, j'ai un appart que je vais vendre à Paris.
T'avais acheté un appart à Paris ?
Ouais.
Avec tes économies ?
Bah, pour le coup, mon grand-père est décédé. Les fourmis de ma famille, mon oncle et ma tante et ma mère ont chacun, au lieu de prendre l'héritage de mon grand-père, ont décidé de le passer à la génération d'après directement, donc mon frère et moi. Donc avec cet héritage, plus tout ce que j'avais mis de côté, mon salaire stable dans le conseil, j'ai acheté genre 200 000 en studio, genre 3 chambres de bonne rassemblées ensemble, Canal Saint-Martin, quoi.
Jeune en plus, du coup.
Du coup, j'ai acheté super jeune. J'avoue, ça c'est vraiment. Mais je pense pas que je l'aurais fait moi sans eux, leur déter. Et après, ils ont géré 100% de mes travaux, trouver des gens pour faire les legs, refaire les sols. On allait meubler ensemble, etc.
C'est hyper sympa.
C'est Noël,
sympa.
Le...
5 ans après, j'avoue que ça avait des avantages de ouf d'avoir un truc à Paris à vendre pour acheter à Marseille.
Ce que tu me dis, c'est que vous voulez acheter une maison à Marseille en arrivant à Marseille et tout repose sur toi, sur la vente de ton appart et sur ton salaire.
Au début, on pense que avec mon salaire, je vais quand même exister dans ce prêt bancaire. ma boîte grossit quand même, je me paye sérieusement. Tu vois, on fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Là.
Avec la savonnerie ?
Avec la savonnerie, avec le savon, des petits savons. Donc, c'est pas mal, toi, on est... Et donc, on prépare ce dossier. Et puis, on commence à se rendre compte que les entrepreneurs ne sont pas trop pris en compte dans ce calcul. Et donc, on dit que je suis salarié...
Dirigeant.
Ce qui est vrai, monsieur le banquier, c'est vrai. Et il a dit, c'est vrai. Mais ça ne reste pas un CDI.
Ah bah oui.
Et donc, c'est non. Et donc, on a en plein milieu de... notre aventure pour acheter une maison, on s'est rendu compte que je valais rien. Lola s'est rendu compte aussi que pour ma boîte, j'avais fait un prêt perso. On avait acheté un local à Bordeaux.
T'as fait un prêt perso en plein milieu de notre demande de prêt pour la maison.
Ouais, alors c'est le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il est tiraillé dans tous les côtés. Et donc, on fait donc un prêt pour Bordeaux, pour le local de Bordeaux, pour monter une deuxième savonnerie. Et en fait, on découvre qu'il reste encore de l'argent dont on a besoin, qu'on n'a pas. Grosso modo, 10 ou 20 000 euros. Et donc, je fais un prêt perso pour ces 10 000 euros. Ma propre banque accepte. Sauf que ton prêt personnel... ta banque personnelle pour acheter une maison veut surtout pas que t'aies, même si c'est un truc qui va être remboursé en 5 mois, il veut pas que t'aies un prêt de 10 000 euros sur 5 ans, quoi. C'est pas possible.
Donc vous pouvez pas acheter
de
maison.
Donc on peut pas acheter de maison.
Là, t'es deg.
Je crois que c'est le moment où on s'est le plus embrouillé.
C'est l'argent. De toute façon, on est sur thune, c'est qu'on s'embrouille que pour l'argent.
C'est le moment où on s'est le plus embrouillé de toute notre relation sur cette histoire de demande de prêt bancaire. En vrai, déjà, c'est un process super désagréable où tu es ultra mis à nu parce qu'ils vont chercher plein d'infos. Donc, en fait, tu découvres plein de trucs plus ou moins clean parce que tu dois donner les extraits de compte de ton conjoint, de toi-même. On te demande de justifier des dépenses. Les mecs regardent des trucs genre, c'est quoi ces 49 euros là tous les mois? C'est mon abonnement Body Minute. Hein. Tu retrouves vraiment avoir des trucs hyper mis à nu. Du coup, il y a tout un truc qui est hyper désagréable parce qu'il y avait quand même l'un des périples qui était réussir à vendre mon appart à Paris assez rapidement. Et idéalement avec des gens qui achetaient cash, parce que sinon après tu dois faire un pré-relais, enfin tout est hyper compliqué. Et là, nouvelle info, le banquier me dit, votre conjoint il a un prêt perso qui venait de faire genre en juillet, et donc du coup ça change tout le dossier et non, on va pas pouvoir vous prêter s'il y a encore un prêt perso en cours. Et acculé face à la situation, je décide de rembourser son prêt perso avec mon argent.
On visite la maison, on la trouve magnifique. Et on avait donc fait une offre d'achat sans la petite note de bas de page, là, comment ça s'appelle ?
Sans clause suspensive de vente.
Ah voilà, sans clause suspensive de prêt. C'est-à-dire, si j'ai pas mon prêt, je m'engage pas à vous l'acheter. On a dit non, nous c'est bon. On peut vous acheter sans clause suspensive cette maison donc, qui valait à l'époque 550 000 euros, sachant que Lola n'a pas vendu son appartement, on n'est pas sûr d'avoir tout le fric. Et tu as une date de péremption de ce truc-là, puisque tu as un mois pour signer. Et si tu peux pas signer, tu dois 10% au vendeur parce que tu lui as menti, tu ne pouvais pas acheter sur 500 000. C'est 50 000 euros quoi, qu'il faut faire disparaître. Donc, tu additionnes des petites couches de vente par-ci, argent de famille par-là, prêt à rembourser, pas à rembourser et tout. Et là-dedans, on se rend compte que quand Lola veut vendre son appartement, il y a des bouts d'appartement qui lui appartiennent pas réellement. Et donc, il faut négocier avec la copro pour avoir une bonne valeur à la revente. Et donc, on est à Marseille. J'ai invité mes parents. C'est la première fois qu'ils arrivent. Mes parents parisiens qui arrivent à Marseille, l'enfer sur terre. Pour eux, tu vois. On leur fait un petit tour de bateau en bois magnifique qui va bien coucher de soleil sur le Frioul. Il y a Lola dans la cale, casque aux oreilles, laptop sur les genoux en train d'essayer de capter au semi-large de Marseille pour essayer de négocier le fait que ce bout de couloir lui appartient, qu'elle puisse le récupérer pour qu'on puisse le vendre. Et donc là, dans un imbroglio, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai un peu l'impression de retrouver un vieux projet mal fait et qui est mal ficelé et qui va se péter la gueule. Et j'embarque trop de gens et ça me plaît pas du tout aussi. Et je la vois d'ailleurs dans son visage, qu'elle n'est pas non plus en grande forme. On s'embrouille pas mal à ce moment-là. Et je me dis, est-ce que ça va passer ?
Moi, j'en arrive à un point, je me rappelle, vraiment, où je dis à Jérémy, en fait, j'ai même plus envie de faire ce prêt avec toi, quoi. Genre, j'ai pas envie d'être engagée à emprunter avec toi quand je vois, genre, tous les trucs bordéliques qu'il y a. Genre, dans quoi je me mets à avoir un prêt sur le dos que je vais partager pendant 25 ans. J'ai même plus envie de le faire. T'arrives vraiment à un point de, je pense, de fatigue mentale. Et ça te met aussi face à des différences, je pense, de valeur sur la gestion de l'argent, d'avoir pas le même rapport sur des prises de risque, d'être avec quelqu'un qui se dit qu'il va un peu toujours s'en sortir alors que toi, t'as pas particulièrement l'impression que c'est le cas. S'ajoute là-dessus des trucs un peu familiaux parce que pour le coup, moi, ma famille, je considère que de base, elle a quand même moins d'argent que la famille de Jérémy. Et eux, ils ont passé de l'argent en termes d'apport. Enfin, c'est eux qui m'ont aidé sur plein de trucs. Genre, Jérémy, quand j'essaie d'insister un peu en mode, t'es sûr que tu peux pas demander à tes parents? Il est là, non, mais moi, mes parents, c'est no way, c'est pas du tout le genre de personnes qui vont libérer du fric comme ça pour nous aider. Et donc, ça cristallise plein de trucs où t'en veux à l'autre de te dire, bah, c'est quand même abusé, tu vois, quand je me dis que tes parents, ils gagnent tant par mois, même à la retraite. On est autour de 9-10 000 euros, qui ne puissent pas se libérer pour aider, pour qu'on ait un peu plus d'air sur toute cette histoire. Moi, je trouve ça hyper abusé, donc je suis genre hyper en colère, quoi.
Tu comprends ça, toi, Jérémy ?
C'est bien le problème, c'est que si on s'embrouille, c'est qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire que pour moi, la famille de là a beaucoup plus de biens immobiliers, beaucoup plus de fric, beaucoup plus de fourmis, beaucoup moins d'enfants. Effectivement, moi, mon père m'a laissé cette liberté de monter des boîtes et donc m'a aussi aidé au démarrage quand j'étais plus jeune de me filer du fric pour pouvoir... Attention, hein, c'est des petites sommes, hein, c'est 10 000 euros. Et donc, pour la maison, typiquement, c'est quelque chose que moi, je voulais plus demander. Et comme la relation à l'argent dans ma famille, c'est qu'on n'en parle pas trop, n'en parler pas trop, c'est aussi de pas trop en demander, quoi. Soit ça tombe dessus, soit ça tombe pas dessus. Mais ça se demande pas trop, quoi.
Oui, alors que pour Lola, clairement, pour sa famille, j'ai l'impression que l'argent, c'est de l'amour. C'est dire, on est là, on te suit, on t'épaule, on t'accompagne et on te le montre via ses investissements, via ses achats, en fait.
C'est systématiquement une logique de proposition j'ai même pas besoin de demander. On va me dire, tu veux que je fasse ci ou ça, comme la dernière fois, on peut aider sur une partie des travaux, acheter des meubles. Eux, ils ont pris du temps pour acheter des biens immobiliers. Ils en ont effectivement acheté plusieurs. Ça reste des gens qui, je pense, font quand même attention et sont vraiment très conscients du fait qu'aujourd'hui, le coût de la vie a énormément augmenté. C'est des gens qui sont ultra à gauche, engagés au PCF et qui sont là justement à dire c'est inadmissible que des jeunes n'aient pas la chance que nous, on a eu. Des jeunes avec des emplois qui ne puissent pas s'acheter un logement correct parce que les prix ont augmenté. Donc, eux sont vraiment dans cette logique de nous, on est bien, on a fait notre vie. Vu que c'est pas l'État français qui permet de faire de la redistribution, comment nous, est-ce qu'on permet d'une certaine manière cette redistribution-là aux nouvelles générations, quoi.
On va parler de votre vie aujourd'hui. Où est-ce que vous vivez, dans quel quartier de Marseille, ce que vous faites et comment vous gagnez votre vie?
On vit à Marseille, dans le quartier de Andoum, donc pas loin des plages, enfin la plage des Catalans, Malmousque, etc. On vit dans 110 mètres carrés.
Cette fameuse maison achetée.
Cette fameuse maison, avec un petit extérieur de genre 25 mètres carrés. Et moi, je suis responsable des partenariats d'une association qui est quand même assez grosse, vu que je suis en CDI là maintenant depuis bientôt 5 ans. Et je gagne, je dirais, 3300 euros net. On a une grille de rémunération qui est entièrement transparente. Quand tu fais une demande d'augmentation, tu prends les retours des gens qui travaillent le plus avec toi, ce qui donne un avis. Cet avis sur ta demande de rémunération, il est étudié par un comité interne qui lui-même dit « moi, je suis plutôt favorable à cette demande d'augmentation ou pas ». Et ensuite, ça, c'est publié dans un channel de discussion où il y a tous les employés. Et donc, tu dois dire devant tout le monde si tu maintiens ta demande ou pas. Et pour quelles raisons, notamment, si tu as un avis défavorable. J'adore la logique derrière. Et la dernière fois, ça m'a beaucoup touchée parce que du coup, j'ai fait une demande. Ça devait faire 3 ans que j'avais pas fait de demande d'augmentation. Au-delà du fait que je pensais que je le méritais, c'était, je pense, aussi lié au fait que moi, j'en sentais vraiment le besoin de pas être autant en stress de compter tous les mois. Enfin, moi, je suis ultra fière d'appartenir à une organisation qui met ça en place parce que ça donne place à des débats sur l'argent, qu'est-ce qu'on considère, est-ce qu'on doit prendre en compte les situations personnelles ou est-ce qu'on ne doit pas les prendre en compte. Et du coup, c'était hyper émouvant parce que moi, je me suis positionnée pour diminuer mon augmentation. Et il y a un mec de la boîte qui a dit... je pense que Lola est plus légitime à s'augmenter. Et donc, c'est moi qui vais prendre l'entièreté de la baisse en compte pour qu'elle puisse s'augmenter elle entièrement. Et franchement, je pense que c'était... J'en ai encore des... Non, mais en vrai, c'était un truc ultra émouvant à vivre. D'avoir un soin comme ça par le collectif d'un truc que pour moi était super important et qui me rend super fière de travailler dans cet orga et d'avoir participé à définir ce modèle de gouvernance qui est hyper étrange. Mais en tout cas, il y a quand même un phénomène collectif qui permet de l'autorégulation et qui fait réfléchir sur ça veut dire quoi un salaire, qu'est-ce qu'on doit accepter. Du coup, ça fait réfléchir sur plein de trucs hyper intéressants.
Vous êtes endetté à hauteur de combien ?
Avec la vente de l'appartement de Lola, plus des apports, etc. Quand on achète une maison à 550 000, là, tu as 50 000 euros en plus de frais de notaire, qui ne vont pas au notaire, hein, pour info, qui vont à l'État, en grande partie. On n'a pas emprunté tant que ça. Mmh. Et surtout, le travail qu'on a essayé de faire le plus possible, c'est d'avoir d'emprunter sur le plus longtemps possible. Donc là, je crois qu'on est sur 25 ans, à 1003 par mois, quoi. Donc 1003, c'est supportable. Et après, c'est Marseille, quoi. C'est, il fait beau, on est dehors. Les week-ends coûtent pas d'argent, puisque tu vas dans des lieux extraordinaires, en bagnole, en 15 minutes, t'es au Calanque, sur la Côte Bleue, etc. T'es souvent dehors. Tes après-midi et tes soirées, t'es pas dans des cafés à Paris, dans des restos, dans des bars, dans des terrasses. T'es à la plage. Ta fille, tu l'as fait kiffer avec 0 euros, encore une fois, t'es à la plage. Donc, c'est vraiment chouette, Marseille, pour ça. Et pour pouvoir entreprendre, c'est bien, puisque tout coûte un peu moins cher. Et donc, en fait, quand t'as tes montagnes russes, c'est plus facilement absorbable qu'un appartement dans le 9e à Paris. Et tes amis qui te proposent tous les soirs de la semaine et tous les week-ends d'aller bouffer dans des restaurants, dans des bars et tout, qui coûtent une fortune. C'est plus facile de jouer avec de l'argent ou pas d'argent à Marseille qu'à Paris.
Et toi, des montagnes russes, t'en as eu ?
Beaucoup de montagnes russes depuis 15 ans. Ces montagnes russes, elles restent quand même incroyablement intéressantes. Moi, à mes yeux, l'argent n'a aucun intérêt. Et peu m'importe, tu vois. Moi, c'est des projets que je monte, que je trouve incroyables, les gens avec qui je travaille, que je trouve incroyables.
Enfin, en même temps, t'es content de vivre dans une belle maison avec ta femme, ta fille, dans un quartier sympa.
Ouais, mais je pense que j'avais pas de femme, pas de fille, et que j'étais seul dans un appartement miteux, je ne sais où, je ferais la même chose. Ça m'amuserait toujours autant. Et après, peut-être que je gagne de l'argent, peut-être que je gagne pas de l'argent, tu vois. Mais c'est vraiment pas du tout un objectif. De gagner de l'argent.
Et tu te rémunères combien aujourd'hui ?
Alors, au mois d'octobre, je me suis rémunéré 0 euro. Au mois de septembre, je crois que je me suis rémunéré 650. Et sinon, les derniers mois, je rémunère 2500 euros net. Et des fois, il y a des trous, donc on fait un peu moins. C'est le truc de l'entrepreneur. Mon associé... Solène fait la même chose, donc on assume tous les deux ces montagnes russes. Tu vis pas mal en tant qu'entrepreneur avec promesse de « vous inquiétez pas, en fait, moi je suis assis sur un magot, quoi. Bon, là, je peux pas l'avoir, là, je l'ai pas, mais en fait, je vous jure, j'ai un magot, quoi. » Et ça fait un peu des nœuds au cerveau. De temps en temps, je me dis « et si je me faisais embaucher dans une grosse boîte, tu vois, avec un gros salaire, et que le week-end, je pensais pas à payer tous les salaires de toute l'équipe ?» Mais c'est sûr que non. C'est tellement bien d'être entrepreneur.
Et comment vous faites quand toi, tu gagnes 0 euro ? Du coup, c'est toi qui prends tout à charge ?
Ouais, je paye la nounou, la maison, les remboursements de la maison et la vie courante. Finalement, ce que je touche aujourd'hui, plus le coût de la vie à Marseille, que Jérémy a un peu expliqué, fait que ça a toujours tenu, quoi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, s'il y a des mois qui sont à zéro, ça a toujours tenu sur mon salaire. C'est un peu la limite que je me fixe, c'est-à-dire que j'aime pas aller tout taper dans mes économies. Pour moi, c'est comme ça, l'organisation est comme ça. Genre, en fait, ça peut me saouler, mais je pense qu'il faut pas du tout se laisser bouffer par ça et... que ça nuise à la relation et parler que de ça et penser qu'à ça. Enfin, je veux dire, quand on était dans le contexte particulier de devoir faire un prêt, en fait, on est obligé d'en parler. Dans la vie courante, il n'y a pas besoin d'en parler non plus tous les quatre matins. Moi, je pense que les personnes étaient stressées, elles n'arrivent pas à être avec des entrepreneurs, sinon c'est trop relou. Jérémy lui-même est quelqu'un de quand même assez zen, et du coup, lui, il ne transmet pas énormément de stress. Et après, moi, je décide que ça ne doit pas m'atteindre non plus, et qu'on verra bien ce qui se passe, et qu'en vrai, quand même, si vraiment quelque chose merdait énormément... même s'il n'a pas trop envie de le faire, oui, il pourra toujours retrouver un autre job, faire du freelance. Je suis quand même sûre que ta famille ne nous laissera pas entièrement dans la merde s'il y avait vraiment un gros problème. Donc, pour moi, on n'est pas non plus une famille dont nos parents des deux côtés sont des ouvriers et sur qui ce serait une merde infinie s'il y avait des problèmes.
Mais quand tu as pas d'argent à Paris, tu te fais chier. Quand t'as pas d'argent à Marseille, tu vas à la mer. Donc, tu dépenses moins. Puis, quand on a deux salaires, ce qui est le temps normal, hein, quand même. On va le rappeler que c'est pas mon quotidien non plus. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand t'as trop d'emprunts, t'es des leasings de bagnoles, des leasings de machins, du crédit conso, des enfants où l'école coûte 10 000 euros l'année ou je sais pas quoi, etc. Et que là, t'es un peu acculé. Et...
Moi, je vois les gens qui empruntent à Paris pour acheter genre 50 pauvres mètres carrés.
Pour 600 000 euros sans frais
de
notaire. En
vrai, ils remboursent genre 2 000, 2 400 par mois. Bah, là, il se passe n'importe quoi sur l'un des deux du couple, t'es dans une galère sans nom. Je veux dire, nous, on rembourse 1 300 par mois, genre tout compris avec l'assurance. C'est pas si éloigné du fait de louer un appart.
À Marseille, pas à Paris.
Oui,
à Paris, à 1 300, t'as 40 mètres carrés.
Bah, notre ancien appart, c'était vers 1 300, 1 400. Ouais, c'est ça, même notre.
On avait 50 mètres carrés à
notre ancien appart à Paris, il était à 1 400 pour 50 mètres carrés. Là, on a 1 300 pour vivre à une maison qui est à nous et qui fait 110 mètres carrés.
Dans les quartiers chics de Marseille, hein, messieurs, dames. Nous ne sommes pas dans les quartiers nord.
C'est sûr qu'il y a moins de stress et ça permet de faire plus de trucs, quoi.
Vous êtes marié ?
Non.
Non.
Vous êtes paxé ?
Ouais.
Ouais.
Tout passe par un compte commun ?
Pas du tout. Non, c'est drôle, hein. Le compte commun, c'est un bloc-notes de Lola qui, moi, me terrifie, parce qu'on m'a jamais appris comme ça. À la fin du mois, elle fait ce qu'elle a dépensé de son côté. Tu sais, les gens au restaurant qui demandent « Ouais, ouais, je veux bien mon petit ticket là de carte bleue pour... Je fais mes comptes à la fin. »
Jamais mes tickets de carte bleue.
Mais c'est l'ambiance, tu vois, c'est l'ambiance. Ce qui est intéressant, c'est que à la longue, on se rend compte que bah, c'est à peu près équilibré. Tu vois, on n'a pas besoin de se renvoyer 100 balles à la fin du mois sur l'un ou sur l'autre. Mais quand même, on l'a compté ces trucs-là pour vérifier que c'était pas trop l'un ou trop l'autre.
Oui, donc en fait, quand toi, tu gagnes zéro, mais que toi, tu as gagné 3 300, c'est pas cadeau non plus, c'est noté et puis c'est rattrapé.
Il y a des choses qui sont à rattraper. Donc en plus, elle gagne plus que moi et donc en salaire. Donc moi, j'ai un peu l'impression de courir aussi sur un truc que je pourrais jamais rembourser. Et donc, je cours un peu après cette dette qui existe. Et donc, c'est aussi un peu ma banque.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher, deux entrepreneurs ensemble ?
T'es entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur romantique. J'aime pas les tableaux Excel, tu vois. J'aime pas les taux de marge, même si je les comprends très bien. Hein, je suis pas débile, mais c'est pas mon truc, quoi. Et t'as les entrepreneurs qui, eux, ont fait école d'ingé, école de commerce, etc., qui sont hyper carrés, qui savent lever de l'argent au bon moment, supprimer des salaires ou des salariés, etc., au bon moment, tac, 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 qui sont hyper carrés. Et eux, en fait, ils ont une vie de cadre sup qu'ils ont juste ultra bien géré dans un projet entrepreneurial, quoi. Mais un entrepreneur fouillis, bohème comme moi, et il y en a deux ensemble, pas simple.
Est-ce que des fois, toi Lola, tu t'es dit tout plaquer pour me mettre avec un fonctionnaire?
Je pense pas. Je pense que quand même, elle a besoin.
C'est pas
je
toi,
sais,
je pensais
je
que
sais,
c'est
mais je sais.
Attends, le gars, il répond.
Alors, je suis pas un mansplaining, mais vraiment, j'y ai pensé tout à l'heure. Je savais que t'es. C'est un peu aussi une porte de liberté, toi, je pense, d'être avec un mec foufou.
Non, j'ai jamais pensé me mettre avec un fonctionnaire.
Ouf.
Après...
Un contrôleur des impôts, peut-être.
En vrai, je suis en CDI, mon salaire, il est payé tous les mois. Ça n'empêche pas que nous, toujours dans notre organisation très spécifique, je vais chercher l'argent pour la boîte. Je me sens pas si éloignée de ce que fait Jérémy. Si je ramène pas d'argent, on paie pas les salaires des employés à la fin du mois, on finit en négatif sur l'asso, on va taper dans nos réserves. Du coup, je me verrais pas du tout être avec quelqu'un avec qui je peux pas parler de ces problèmes-là. Et donc, être avec quelqu'un qui, genre, comprend mon univers et qui comprend c'est quoi l'enjeu de pas réussir à boucler un budget, avoir des sujets de trésorerie, etc., bah, je trouve que c'est quand même hyper important. Et je sais pas si je me verrais avec quelqu'un qui pige rien parce que il a son salaire et il est dans un grand groupe à avoir, je sais pas moi, 1 million d'euros par an à dépenser en achat pub parce qu'il est respo com de sa boîte, quoi. C'est sûr que je me verrais pas du tout faire ça, quoi.
Bon, bah, tout va bien, quoi.
En vrai, tout va bien. Et pour la blague, c'est que on se relance dans acheter une nouvelle maison, quoi.
Ça nous pourquoi a...
Bah, ça nous a pas suffi. Le hasard, c'est que ma stagiaire me dit que ses grands-parents partent à l'EHPAD et qu'ils vont vendre leur maison à Marseille. On lui dit, c'est où? Elle nous dit, dans les hauteurs de Vauban, un endroit un peu sympathique à Marseille. Et je dis, ah, dis donc, comment ça coûte? Bon, bien, oh, trop cher pour nous. Ça nous intéresse.
Il y a des chances?
On fait tout pour.
Au niveau des vacances, vous faites quoi, vous? Vous êtes du genre à partir loin, cher, des petites vacances
On est devenu écolo. Ouais.
On part en vacances en France. Là, on est allé à Barcelone où on a échangé notre appart. Ma collègue qui est à Barcelone est venue à Marseille et nous, on est allé dans son appart à elle. Et même mon deuxième collègue. Ouais, on est allé en bagnole.
C'était beau, la côte est incroyable. Marseille, Barcelone, magnifique. Mais... il y a vraiment ce truc un peu que je déteste malheureusement, mais c'est genre, bah, nous, on a kiffé quand on était jeune avec les parents qui nous ont envoyés à Bali en Floride. Et donc, je peux me pavaner à dire, bah, moi, je pars qu'en France maintenant. Parce que, bah, en fait, quand t'es pas parti en Floride, vas-y, quoi. C'est, oh, la Floride, c'est nul, hein. Franchement, n'y va pas. Mais faites d'autres trucs. Il faut le faire au moins une fois. Jean-Co, il nous dit qu'il faut faire 3 avions dans notre vie.
Bah, 4.
4 avions dans notre vie. 4 avions dans notre vie. Faites-les, quoi. Vraiment, prenez l'air. Restez peut-être longtemps aussi. Peut-être pas qu'une semaine, ouais, pour partir à Dubaï, bien, quoi. Restez. Un mois, si vous le pouvez.
Ce serait quoi les conseils que vous donneriez à un couple mixte de l'argent, si je puis vous appeler ainsi, comme vous?
Là, on a l'impression qu'on est super différents par rapport à l'argent. Mais je trouve que comme dans plein de trucs, chacun prend des rôles. Moi, par exemple, dans un autre couple, je pense que j'étais quelqu'un qui était vachement stressé de l'argent. Et pour le coup, j'étais la personne qui était YOLO, quoi. Du coup, moi, je me retrouvais un peu à être cette meuf, un peu contre mon gré. Je suis dans ce rôle parce que je considère que genre, je vais pas aller jusqu'à mettre en risque notre famille, quoi. Et je pense que ce qui est super important, c'est de se dire, en fait, combien de temps t'acceptes de faire ce rôle-là et du coup qu'il y ait aussi l'opportunité après que tu puisses en sortir. C'est-à-dire que ben aujourd'hui j'assume beaucoup de trucs. J'aimerais plus tard que Jérémy assume la charge mentale du fric et que moi je puisse faire ce que je veux, quoi.
Il y a la fourmi et la cigale, mais il y a le stressé et le pas stressé. C'est-à-dire que faut bien faire attention. C'est que t'as le droit, tu peux être une fourmi et pas être stressé de l'argent. Et souvent, les fourmis sont stressées, mais il y a des fourmis pas stressées. Donc, pour une cigale comme moi, je te conseille d'être avec une fourmi pas stressée. Pour la fourmi, d'ailleurs, aussi. Les gens stressés du fric ne peuvent pas tenir avec un entrepreneur. Un entrepreneur, petit entrepreneur. Bon, on n'a pas dit Elon Musk ou je sais pas qui. Tu vois, genre,
j'aimerais faire une interview où on ne cite pas Elon Musk.
Ouais, putain, je suis désolé. J'ai essayé de trouver d'autres gens dans ma tête. J'en retrouvais pas. Il a été trop fort pour moi.
Et après, je pense que ce qui est important, c'est... Enfin, tu vois, là, on parle de la partie fric, mais c'est aussi de parler toute la partie avantage. On décide qu'on a envie de partir un vendredi à telle heure et s'arrêter de bosser. En fait, genre, il peut complètement le faire. Et du coup, je pense que ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi un peu le... Enfin, la contrepartie, ouais. Je sais pas si c'est le meilleur terme, mais de se dire, bah, en fait, tu gagnes moins de fric, mais...
Mais je fais les travaux dans la maison.
Tu fais les travaux dans la maison.
En ce moment, c'est son nouveau truc.
Ça, c'est des contreparties en mode troc, un peu, genre, il fait la bouffe la grande majorité du temps, il fait tous les travaux dans la baraque, etc.
Mais... il porte les choses lourdes. Je suis un mal alpha un peu, tu vois.
Conduis la voiture.
Je conduis la voiture, on est dans des clichés.
Je paye la voiture et conduis la voiture, tu vois. Il y a les contreparties qualité de vie qui est de se dire bah en fait j'accepte d'être avec quelqu'un qui est un peu bohème mais parce que si je veux que tel jour on finisse à 17h bah en fait c'est pas un sujet, si faut se réorganiser pour une histoire d'enfant bah c'est pas un sujet, s'il faut partir un mois en vacances bah c'est pas un sujet, si on a envie de faire un mois et demi bah c'est pas un sujet et du coup ça c'est quand même trop agréable. Je pense qu'il faut être super au clair sur j'y perds peut-être là-dessus, mais sur quoi j'y gagne. Et il ne faut pas y perdre sur tous les tableaux, sinon... si t'es avec un entrepreneur qui bosse des tonnes, qui en plus ne gagne pas d'argent, je pense que tu t'es fait niquer sur tous les tableaux, tu vois. Genre, il n'est jamais là, ouais. Et en plus,
ouais.
Il ne gagne pas de fric.
Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thunes, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thunes à Thunes, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous.